Savez-vous, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'est l'homéostasie ? L'homéostasie, ce n'est pas un mot qu'on emploie de façon habituelle. L'homéostasie, ça vient du grec, comme vous vous en doutez, qui veut dire la capacité pour un système de perdurer dans le temps, de se reproduire, de rester le même, quels que soient les changements qui l'entourent, et de continuer à exister malgré les adversités. Vous avez, par exemple, dans notre corps, une capacité d'homéostasie, le fait de demeurer vivant. C'est un système, le corps, quelle que soit la température extérieure, bien, le corps se défend pour rester égal au niveau de la température, avec les régulateurs que nous connaissons. Mais les systèmes ne sont pas simplement biologiques. Il y a des systèmes relationnels. On voit bien, par exemple, qu'une famille fait tout pour perdurer, quelles que soient les réalités et les difficultés qui l'entourent, une communauté. Les religions sont aussi des systèmes. Et les religions ont une capacité de perdurer très forte de par le culte, les rituels, les traditions qui l'habitent, et de siècle en siècle, elles visent à se prolonger dans le temps malgré les adversités qui l'entourent. Elles font preuve d'homéostasie. Mais parfois, c'est différent. Et nous en avons un exemple dans la première lecture. Dans la première lecture, nous avons une adaptation au changement. Nous avons quelque chose qui diffère de la réalité habituelle. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des premiers temps de l'Église, des Actes des Apôtres, et des personnes sont allées voir à Antioche Paul et Barnabé, et ont parlé aux Juifs qui étaient là, mais aux païens aussi, vous devez vous faire circoncire. La circoncision, vous le savez encore maintenant, c'est un curseur identitaire très fort dans la tradition juive, c'est l'appartenance au peuple de l'Alliance. Et la demande de faire la circoncision aux païens, parce qu'il s'agit de ça, Paul et Barnabé étaient assez troublés de cette situation et sont montés à Jérusalem et ont dit, mais est-ce que les païens doivent se circoncire ? Est-ce qu'ils doivent avoir les mêmes traditions que les juifs ? Est-ce qu'ils doivent rentrer aussi dans cette continuité que nous avons dans la tradition juive ? Et là, il y a eu un changement. Là, il y a eu un changement. Parce que les apôtres auraient pu dire, il faut faire comme toujours. Il faut faire preuve d'homéostasie. Ils n'auraient pas dit comme ça, mais il faut continuer la tradition de nos pères. Et ils ont dit non. Ils ont dit non, les païens sont dispensés de la circoncision. Les païens seront aussi dispensés de toutes les lois concernant le pur et l'impur, concernant l'alimentation. On sait bien que Saint-Pierre a eu une vision où il voyait que tous les aliments, toutes les bêtes étaient pures, et on prend conscience que Jésus a fait imploser le pur et l'impur. C'est considérable, cette différence. Et donc, ils ont accueilli un changement qui n'était pas prévu au départ. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas accueilli ce changement ? S'ils avaient dit, mais oui, il faut faire comme nos pères, il faut faire comme on fait, comme on a toujours fait. Ne changeons rien. Eh bien, vous savez ce qui se serait passé, c'est que le christianisme serait une petite secte juive de quelques centaines de personnes, comme le sont les Samaritains. Les Samaritains existent toujours, mais c'est quelques centaines de personnes dans le monde. C'est quelque chose de tout à fait réduit. Et le fait que les apôtres aient eu cette intuition de dispenser les païens de la circoncision et des lois du pur et de l'impur concernant l'alimentation, etc., à tel point que pour nous, ça nous paraît tout à fait étrange de voir qu'on ne peut pas manger, qu'on peut être impur en mangeant, par exemple, un aliment. Vous ne savez pas que les huîtres, par exemple, dans la tradition juive, vous rendent impurs, parce que c'est un animal vivant, et on ne peut pas manger d'animaux vivants. Pour nous, ça nous paraît, on ouvre des yeux comme ça, parce qu'on a été façonné par le christianisme dans toutes nos contrées. Et donc, ils ont ouvert une possibilité différente. Un autre moment aussi dans l'histoire de l'Église qui a été différent mais assez puissant, c'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, par exemple, a introduit une vraie rupture, un vrai changement, un accueil, un aggiornamento, comme on dit, au niveau liturgique, mais pas que, au niveau du dialogue avec les autres religions, au niveau de la liberté de conscience qui est maintenant inscrite dans les textes. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des moments clés où l'Église a fait a accueilli un changement alors que, de par sa nature, l'Église est dans la tradition, dans la transmission, comme toutes les religions, n'aime pas trop le changement. Au contraire, perdure veut perdurer dans le temps et reproduire l'identique. Je me dis pourquoi je vous dis ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il peut y avoir un risque de repli sur nous-mêmes. Un risque de repli sur nous-mêmes, un risque de repli identitaire, ne change rien, faisons comme d'habitude. Et voire retournons en amont peut-être aussi du concile. Avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Retournons à une chrétienté, à une France chrétienne comme on l'avait vécu du temps de saint Thomas d'Aquin et du temps de la fondation des ordres dominicains et franciscains, du temps de la fondation des cathédrales. Retournons à ce temps-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne serait pas adapté, je trouve, quelque chose qui ne serait pas juste, parce qu'il y a justement cette intuition que donne le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a parlé, le Saint-Esprit nous-mêmes, là, la formule est restée très célèbre hein, dans l'histoire de l'Église, à tel point qu'un certain nombre de textes des papes commencent comme ça, l'Esprit-Saint et nous-mêmes déclarons que. Mais nous croyons que le Saint-Esprit, dans ces moments de rupture, qui ne sont pas intuitifs, encore une fois, parce que ce n'est pas habituel dans les religions de proclamer une rupture. Au contraire, on ne veut pas de changement, on veut continuer à l'identique, on veut se reproduire dans la transmission et la tradition. Mais là, il y a eu quelque chose de l'ordre de la rupture. Et ces retours en arrière que l'on voit dans notre Église, hein, de la part de certains, pas tous bien sûr, mais je trouve, me laissent perplexe. Je me dis, tiens, ces intuitions qu'il y a eu, alors personne ne retournerait en amont au niveau de la tradition juive, par exemple, déclarant pur et impur, ce serait complètement inaccepté, mais on voit bien le Concile Vatican II parfois est remis en cause, etc. Donc je me dis, tiens, comment accueillir les changements, comment accueillir ce qui est autre, comment accueillir ce qui nous déplace de notre zone de confort, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Le pape Jean XXIII, qui a lancé le Concile Vatican II, lui qu'on appelait un pape de transition, hein, eh bien, a surpris toute l'Église. Un concile pastoral, en plus. Ce n'est pas un concile doctrinal, vous savez, Vatican II. Ce n'est pas parce qu'il y avait des hérésies comme les précédents conciles où il fallait reparler le statut de la Vierge Marie, de la Trinité et de la divinité du Christ. Non, il s'agit d'un concile pastoral. Il a initié une nouveauté. Initier une nouveauté, il a fait basculer d'une certaine manière l'Église dans la modernité. Et je trouve ça intéressant de dire que accepter ce qui est autre, ce qui est différent, ce qui n'est pas le même, et accepter au fond l'altérité, parce que c'est ça dans l'accueil du changement, c'est quelque chose qui a à voir avec la fécondité de nos vies. C'est ça qui nous permet de porter du fruit et un fruit qui demeure. C'est ce qui nous permet de nous laisser déplacer intérieurement, ce qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu, parce que si nous sommes invités, comme nous a dit l'Évangile, à demeurer dans l'amour en écoutant la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Jésus, demeurez dans mon amour, hein, celui qui garde mes paroles, eh bien moi je demeure en lui et lui demeure en moi, eh bien la parole de Dieu, on le sait bien, c'est Dieu lui-même, et Dieu lui-même, on ne peut pas l'enfermer dans des cases, on ne peut pas le mettre dans une situation être trop rigide, hein, voilà, Dieu c'est ça, de façon très claire, etc. Non, la parole de Dieu, elle nous invite toujours à un changement. Elle nous invite toujours à bouger intérieurement. Elle nous invite, voilà, à accueillir l'altérité, accueillir l'autre comme. Et on ne se rend pas compte hein, ce que ça a été pour les apôtres d'accueillir des païens qui avaient une autre tradition religieuse. La question de la circoncision, la question du pur et l'impur, c'est tellement, on le voit, central dans la tradition juive et dans la tradition des apôtres qui ont reçu Paul et Barnabé, mais dans la tradition de Pierre et Barnabé. Mais cette intuition qui fait qu'ils ont accueilli ce monde qui était nouveau, ce monde qui n'était pas le leur, et ils ont permis à la parole de Dieu de féconder ce monde-là. Et je me dis, ça, c'est vraiment un exemple, mais considérable. Un exemple considérable de la manière, au fond, de nous positionner. Hein, l'Église n'est pas ce système qui se préserve contre tout changement, hein, d'une certaine manière, a peur du monde, non? Et on le voit bien avec le pape Léon, qui a été un missionnaire au Pérou et qui a accueilli cette réalité péruvienne très différente de la nôtre. Non, l'Église accueille les réalités telles qu'elles sont et voit comment l'Évangile peut féconder ces réalités et comment ces réalités peuvent exprimer l'Évangile d'une autre manière. Alors oui, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif, et dans nos vies aussi, on a des changements. On a des changements, alors, plus modestes, bien sûr, c'est notre petite histoire, c'est pas la grande histoire avec un grand H, mais dans nos histoires aussi, il y a des bouleversements, il y a des accueils de changements, de modifications, des accueils de sortir de notre zone de confort, qui nous permettent aussi de porter du fruit, même si un temps on est insécurisé, parce qu'on se dit, voilà, on connaît ce qu'on quitte, mais vers ce qu'on va, eh bien, on ne le connaît pas par définition, hein. Eh bien, on sait bien, vivre du Saint-Esprit, c'est passer du connu à l'inconnu. Vivre du Saint-Esprit, c'est accueillir ce don de Dieu qui va faire toute chose nouvelle, parce que dans l'Esprit du Seigneur, cette parole de Dieu, dans cette réalité nouvelle, elle va dire quelque chose de particulier. Et donc, soyons attentifs dans nos vies, dans nos communautés, dans nos réalités personnelles, familiales, professionnelles, ecclésiales. Soyons attentifs de voir comment ce qui est différent, ce qui est autre, n'est pas comme d'habitude, au lieu de le rejeter, non, on a toujours fait comme ça, restons comme avant, eh bien non, soyons attentifs, de dire, ce qui n'est pas comme d'habitude, comment ça vient nous interpeller, combien ça vient nous, certainement nous déranger, mais ça vient nous ouvrir des horizons qui ne sont pas les mêmes, et nous donner de porter du fruit, et un fruit qui demeure. Demandons au Seigneur, par son Saint-Esprit, d'être vraiment attentif à ça, et c'est ça vivre de la résurrection du Christ. La vie, nous ne pouvons pas l'enfermer dans des boîtes, la vie de Dieu, on ne l'enferme pas dans quelque chose de rigide, par définition, la vie de Dieu, elle nous dépasse, et c'est à partir de la résurrection du Christ qu'on est éclairé au fond, et que cet éclairage vient nous redonner une manière d'envisager événements et personnes différentes de ce que c'était auparavant. Demandons à Jésus, par assez d'humilité, parce qu'il faut de l'humilité. On imagine que les apôtres, on imagine aussi que les pères conciliaires ont eu beaucoup d'humilité pour rentrer dans cette démarche du pape Jean XXIII. Eh bien, ayons assez d'humilité, nous aussi, à notre modeste place, d'accueillir ce qui est autre, d'être attentif, d'accueillir l'altérité, ce qui n'est pas comme d'habitude, de nous laisser interpeller, de nous laisser déranger, pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.